podcasts de Radio Vatican.
Après des mois de calme relatif, de violents combats ont été signalés dans la région du Darfour au Soudan à la fin du mois de mai. Des violences entre des factions rebelles de l'armée de libération du Soudan et les forces gouvernementales qui auraient fait des dizaines de morts dans les deux camps. Depuis 2003, la région subit une guerre meurtrière qui aurait fait 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés selon l'ONU. Malgré des tentatives répétées de résolution du conflit sous égide africaine et occidentale, le processus de paix reste très fragile 14 ans après le début de la guerre. Alors que les États-Unis pourrait lever les sanctions contre Khartoum dans les jours prochains, cette reprise récente des combats révèle que cette guerre au Darfour est loin d'être résolue. C'est ce qu'analyse Marc Lavergne. Il est directeur de recherche au CNRS, spécialiste du Darfour.
Il y a actuellement au Darfour une reprise de violence. Depuis 2003, si vous voulez, rien n'a été réglé. Il y a eu beaucoup de tentatives de règlement sous l'égide de la communauté internationale, comme l'accord d'Abuja en 2006, et puis après il y a eu des négociations à Doha au Qatar qui étaient sponsorisées entre guillemets par certains pays occidentaux, dont la France, et qui essayaient de faire finalement plier les groupes rebelles pour aider le pouvoir de Khartoum à revenir sur place. Mais ces accords n'ont été signés que par un petit nombre de rebelles. Et puis, sur le terrain, la population est toujours cantonnée dans des camps de déplacés, des camps immenses à la périphérie des grandes villes, souvent, et personne n'est rentré chez soi. Alors, le terrain est toujours occupé par des petits groupes rebelles, il y en avait trois principalement, qui étaient un groupe au nord, le mouvement de la justice et de l'égalité, qui est un mouvement islamiste, si vous voulez, et qui vise à conquérir le pouvoir à Khartoum. Et puis, il y a deux mouvements proprement du Darfour, qui sont la scission l'un de l'autre, le mouvement de libération du Soudan, et le mouvement de libération du Soudan branche Mini Minawi, qui était le chef adjoint du mouvement premier, et qui a fait sécession. Alors aujourd'hui, on a ces groupes qui continuent à fonctionner sur le territoire, avec en face les successeurs des fameux Janjaweed, soutenus par le gouvernement de Khartoum, qui sont des milices tribales. On appelle ça aujourd'hui le mouvement des forces de support rapide du Soudan. Donc ils sont soutenus par l'armée parce que le gouvernement soudanais n'a pas d'armée à aligner, à proprement parler, au Darfour. Il utilise les forces aériennes, c'est-à-dire des bombardements aveugles avec des Antonov, des hélicoptères de combat pour mitrailler les villages, et puis ces forces qui sont équipées de matériel roulant, bien des chameaux. Voilà. Donc on a une situation qui n'est pas réglée du tout, et les endroits où les rebelles continuent à fonctionner, je dirais, c'est ils sont repliés dans cette montagne qui culmine à 3000 mètres d'altitude, le Jebel Marra, donc il est assez difficile d'accéder pour les forces gouvernementales. Et puis, il y a donc des bombardements aériens, puis de temps en temps des offensives. C'est un peu ça qui a eu lieu dans les jours passés, des tentatives du gouvernement d'éliminer ces forces rebelles de la montagne de ce Jebel Marra.
Est-ce que ces violences qui reprennent aujourd'hui, elles ont les mêmes raisons et les mêmes racines que celles qui ont commencé en 2003 ?
Ah oui, toujours. C'est-à-dire que la question fondamentale, ça n'est pas du tout l'autonomie ou l'indépendance du Darfour. Aucun mouvement rebelle ne revendique la sécession du Soudan. Soudan qui, depuis 2011 maintenant, est d'ailleurs amputé du Sud. Donc les gens qui sont au pouvoir à Khartoum, le président Omar al-Béchir et les gens qui l'entourent, se disent que s'ils perdaient le Darfour, ça serait la fin du Soudan. Ce que ne souhaite personne, ce que ne souhaitent pas les gens du Darfour qui se considèrent tout à fait soudanais. Donc ce qu'ils veulent, c'est l'égalité des droits dans cet ensemble soudanais qui reste, c'est-à-dire qu'il y ait à la fois une part du budget pour leur développement, pour leurs infrastructures, des services publics, des écoles, des hôpitaux, une présence de l'État plus importante, mais aussi qui s'occupe plus de la population, et puis un droit de regard dans les affaires de Khartoum. Or, le Soudan est une dictature militaire, avec une dimension islamiste très forte, et donc les gens qui dirigent l'ensemble du Soudan à l'époque et jusqu'à aujourd'hui, c'est des gens qui viennent de de petits groupes ou de petites tribus arabes ou qui se disent arabes et musulmanes et qui sont originaires de la vallée du Nil et qui méprisent souverainement les gens du Darfour comme des autres régions périphériques, c'est-à-dire les monts Nouba au centre du pays et le Nil Bleu, près de la frontière éthiopienne, où il y a encore aussi d'autres mouvements rebelles qui se battent pour lutter contre ce racisme institutionnel qu'il y a au Soudan, qui fait que les gens de la vallée du Nil se sentent supérieurs et donc habilités à diriger les autres qu'ils considèrent plus ou moins comme des esclaves.
Et alors Khartoum, en janvier dernier, a décrété un cessez-le-feu et depuis 2003, il y a eu des trêves successives. Pourquoi est-ce que ces cessez-le-feu s'avèrent à chaque fois un échec ?
Parce que il y a pas de sincérité dans la démarche de Khartoum, qui cherche à digérer ce mouvement rebelle, à acheter les chefs rebelles les uns après les autres, à les monter les uns contre les autres aussi, et donc à dissoudre cette résistance sans rien accorder. Donc un cessez-le-feu, effectivement, Khartoum parfois fait mine de lever le pied, mais il y a une administration aussi issue de Khartoum au Darfour, avec des forces de sécurité qui sont là, qui torturent, qui emprisonnent, qui exécutent les rebelles, même s'il n'y a pas d'opération militaire. Et puis il y a des gouverneurs et des sous-gouverneurs qui sont des collaborateurs de Khartoum, des puissants chefs de tribu, ou bien des gens qui sont envoyés depuis Khartoum. Alors, il y a à côté de cet appareil militaire toutes ces forces civiles qui sont en œuvre pour normaliser et pour dire au monde que le problème est réglé. L'idée, c'est qu'il n'y a aucune intervention extérieure qui est tolérée. Eh bien, tout ça fait une situation où il y a beaucoup d'acteurs à l'échelle locale, mais nos chancelleries en France et en Occident d'une manière générale ne s'intéressent pas à ces combats ou à ces enjeux auxquels ils ne comprennent rien.
Le conflit au Darfour a fait 2,5 millions de déplacés selon les chiffres de l'ONU. Comment est-ce que cette situation humanitaire dramatique est prise en compte par les instances internationales ?
L'ONU intervient avec des soldats qui ne font rien et avec des agences humanitaires. On peut citer le Programme alimentaire mondial, l'UNICEF, le Haut-Commissariat aux réfugiés, etc. On les connaît bien. Ces agences ont des fonctionnements, je dirais, endogènes, c'est-à-dire qu'elles ont des budgets et il faut, pour qu'elles continuent à fonctionner, qu'elles aient de l'argent, qu'elles aient des marchés. Et le Darfour est un marché, finalement. Et sur le terrain, eh bien, elles sont complètement soumises au régime de Khartoum. Elles maintiennent la population en état de survie. On dit 2,5 millions. Bon, l'ONU n'a pas changé ses chiffres depuis 10 ans. Alors elle distribue de la nourriture quand on lui dit de distribuer de la nourriture, des médicaments quand on peut, mais la population est ulcérée parce que elle dit mais c'est pas ça que nous voulons. Nous ne voulons pas de l'aide pour survivre, nous voulons rentrer chez nous. Nous voulons reprendre notre vie. Nous voulons que nos simples revendications d'égalité en tant qu'être humain soient reconnues. Et l'ONU ferme les yeux sur ces questions-là en disant nous, on ne fait que de l'humanitaire. Et puis, quand il s'agit d'organisations humanitaires privées, civiles, eh bien, là, c'est le gouvernement soudanais qui bloque les visas, qui bloque les capacités d'accès, parce qu'il ne veut pas de témoins indépendants qui pourraient rapporter ce qui se passe réellement sur le terrain. Et donc, jusqu'à présent, la situation est gelée et pourrait l'être encore pour très longtemps, avec une destruction, bien sûr, de tout ce qui est la vie de la population du Darfour, sa culture, les champs ne sont plus cultivés, les animaux sont tous morts, donc il n'y a plus d'économie autonome de cette région, qui est une région fertile, une région qui était prospère à son niveau, avec la chance d'avoir des ressources en eau considérables. Mais aujourd'hui, les enfants grandissent dans des camps de réfugiés où on leur sert deux repas par jour et où on les prend en charge, mais de manière finalement dramatique parce que ça les prive de toute autonomie et de toute compétence même pour vivre dans cet environnement sahélien que leurs pères ont connu.
Des propos recueillis par Blandine Hugonnet.